Nous sommes en 2016 et François Fillon, candidat à la présidence de la République française, propose de privatiser la part de la sécurité sociale sur laquelle les assurances peuvent faire du profit. Celle qui concerne donc des petits bobos aux grandes fièvres, en passant par les mycoses ou la myopie. En cette même période, d'autres prétendants à la présidence parlent d'instaurer un revenu universel. Aujourd'hui sont avec nous Julien Chenet et Pierre Chastain. Salut à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes adhérent du réseau Salariat et avec vous, nous allons aborder l'idée, non pas du revenu universel, mais du salaire à vie. Bon, tout d'abord, comment ça va ?
Très bien.
Ça va bien, merci.
Fantastique. Vous faites partie donc d'une association d'éducation populaire qui s'appelle le réseau Salariat. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce réseau Salariat ?
Alors, moi je ne suis que sympathisant, j'ai pas encore adhéré, c'est mal. Le réseau Salariat est né, il me semble, puisque moi je suis plus récemment arrivé dans ce réseau, Pierre me corrigera si je raconte des bêtises, suite à la défaite de 2010 concernant la réforme des retraites, enfin défaite pour le mouvement syndical et victoire pour les réformateurs, une fois de plus. Et donc, suite à cette défaite sur le mouvement des retraites, s'est formée cette association. Il faut bien dire autour des travaux, beaucoup des travaux d'un économiste qui s'appelle Bernard Friot, et qui a mobilisé autour de ses études, de sa pensée, un grand nombre de personnes et de... Une vision des choses qui était relativement nouvelle pour beaucoup, il me semble, et qui a fait que ça a pris, dans le sens où ce réseau Salariat, a priori, parle à des gens très variés en termes d'origine ou des militants qui vont... peut-être des anarchistes aux socialistes.
Sur le site du réseau Salariat... On peut lire « Qui réunit des travailleuses et travailleurs de tous horizons, salariés d'associations, d'entreprises et de la fonction publique, syndicalistes, mais encore retraités ES, entrepreneuses et entrepreneurs, chômeuses et chômeurs, parents et étudiantes. » C'est pas forcément que des salariés.
Je dirais pas mieux.
Merci le réseau.
C'est une des caractéristiques de réseau Salariat et une des surprises quand on est dans l'association, de voir la diversité des origines sociales. Et la diversité des âges aussi. À titre d'exemple, il y aura 15 jours samedi, je crois, au CA. C'est celui qui a été tiré au sort, la personne qui a été tirée au sort pour diriger le CA, le réseau Salariat, avait 21 ans. Et c'est un adhérent qui a adhéré à réseau Salariat à l'âge de 17 ans. Voilà, et c'est un bel exemple. Et on vient de faire adhérer... à Réseau Salariat 19 de Corrèze, donc l'instance corrézienne, un monsieur qui a 92 ou 94 ans, je ne me souviens plus, donc vous voyez, l'éventail des âges est... Et du point de vue origine sociale, c'est un petit peu la même chose, quoi, avec la présence très forte de vieux militants, mais... la présence aussi très forte de jeunes qui, en fait, ne sont nulle part. Ceux qui vivent qui bricolent avec du RSA ou rien du tout, d'ailleurs. Voilà. Et voilà. Toi, tu es intermittent du spectacle et c'est un bel exemple aussi de gens qui sont à Réseau Salariat. Ouais. Voilà.
Et vous, Pierre ?
Ah, moi, je suis un vieux de 69 ans. Voilà. Bon. Je fais partie des vieux militants d'une certaine manière, en ce sens que j'ai été depuis toujours, de par ma famille, dans la gauche, gauche extrême gauche, quoi, départ communiste, voilà, avant d'être plutôt vers l'anarchisme. Et d'autre part dans l'écologie, j'ai toujours été dans l'écologie, voilà. Donc j'avais les deux. J'ai toujours eu les deux jambes, une jambe de gauche et puis une autre qui n'est pas de droite, mais qui est quand même l'écologie. Voilà.
Ok. Je ne pourrais pas faire de rebondissement là-dessus, même si cette histoire de pas de droit. Ah, la jambe gauche, la jambe droite, ça y est, je viens de comprendre.
Eh ouais.
Désolée. Je parlais dans l'introduction de cette lumineuse idée de François Fillon de privatiser la sécurité sociale pour permettre aux assurances de faire du profit sur les maladies qui sont. Qui peuvent faire fructifier des profits. C'est du coup remettre en cause une des avancées de 1945, en fait, issue du Conseil de la Résistance. Je me disais, ce monsieur de 92 ans qui vient d'adhérer, est-ce qu'il retrouve dans le réseau salariat peut-être des idées de sa prime jeunesse ?
Oui, c'est exactement ça. Oui, oui, tout à fait. Oui, c'est. Je comprends Fillon. Hein, c'est oui. C'est. Je comprends bien. Et les riches ont même créé à l'échelon mondial un organisme qui s'appelle l'Accord général sur le commerce des services (AGCS), dont le but complètement théorisé, et, voilà, et mis en pratique d'ailleurs, hein, comme il faut, c'est de faire entrer dans la sphère marchande l'intégralité des activités humaines. Donc, la santé, bien sûr.
Je me demande même si ça n'a pas été signé par un certain Jospin en 97.
Ah ben si, bien sûr, oui.
un socialiste.
Ben ouais, un socialiste. Ouais. Ah, mais c'est les... ouais. Nous devons à nos amis, à nos grands amis réformistes, ouais, voilà, sociodémocrates, la mise en œuvre des programmes les plus durs de la droite, bien sûr,
et du capital. Vous pouvez me rappeler comment ça s'appelle la GCS,
non ? Accord général... Sur le commerce des services, AGCS, oui.
Et ça, c'est un accord international ?
Ben, c'est un organisme privé du genre OMC, Organisation Mondiale du Commerce. C'est un pendant de l'OMC.
Et qui peut donner des directives aux États au niveau de leur...
Alors, dans le détail, je ne peux pas expliquer, mais oui.
Vous mentionnez donc une antenne corrézienne du réseau salariat. Donc,
oui.
Comment fonctionne l'association ou le réseau ?
Le réseau salariat lui-même, c'est actuellement à peu près 300 adhérents. Et ça fonctionne d'une manière classique avec un CA.
Un CA national ?
Oui, c'est ça, une AG. Des séances de formation et des groupes locaux. Enfin, oui, des groupes thématiques, des groupes, etc., etc., à l'intérieur de réseaux salariés nationaux, plus des groupes locaux qui ont une certaine autonomie, bien, même si elles s'ils dépendent directement de réseaux salariés nationaux, quoi. Voilà.
Le tirage au sort à la présidence de l'association, c'était au niveau national ?
Oui, mais puis c'est nouveau.
D'avoir fait une présidence ou d'avoir fait du tirage au sort ?
Du tirage au sort. C'est le premier tirage au sort qui y a, oui. Je l'avais proposé et puis il s'est fait un peu malgré moi puisque il y avait dans le train qui me conduisait au CA et il y avait un suicide et donc le train avait 2 heures de retard et pendant ce temps-là le tirage au sort avait été que j'avais proposé avait été décidé et fait voilà.
Bon, c'est bien quand même.
Oui, c'est très bien. Oui, c'est une expérimentation.
Oui, le tirage au sort, c'est une idée de démocratie qui est...
C'est une idée de démocratie, ouais, qui vient grosso modo d'un bonhomme qui s'appelle Étienne Chouard, qu'il faudrait aller consulter au même titre que Bernard Friot, parce que c'est une grande... comment dire ? C'est une personne géniale dans la création de pensée, dans un domaine qui est complètement complémentaire de celui du salaire à vie. Le salaire à vie étant... ce qu'il y a de nécessaire pour prendre la richesse, et les idées de Chouard sur la démocratie, etc., etc., sont ce qui va venir, ce qui est nécessaire derrière pour éviter que la domination ne reprenne, refasse ses éternels dégâts dans la gestion de l'argent que nous reprendrons avec le salaire à vie. Voilà.
Alors justement, on va commencer à parler un peu plus précisément de cette idée de salaire à vie. Alors en ce moment, avec la campagne présidentielle qui a largement débuté en France, On entend assez régulièrement parler du revenu inconditionnel qui apparaît comme ça dans la bouche des uns et des autres, sous des noms différents, peut-être des fois aussi sous des idées différentes. Alors le réseau salarial, lui, défend l'idée de salaire à vie. Quelle est la différence, quelle serait la différence entre un revenu inconditionnel et un salaire à vie?
Alors, en effet, ce revenu de base inconditionnel qui prend plein de formes, plein de noms différents, avec dans le détail des propositions qui diffèrent entre le salaire de, enfin, les propositions qui sont plutôt à droite jusqu'à Christine Boutin ou chez les socialistes. Je crois que Valls en a parlé aussi récemment. Donc, il y a une sorte de
Montebourg.
Mode.
Oui, il y a une petite mode comme ça.
Alors, une mode. Alors, ce qui est rigolo, enfin, ce qui est rigolo ou pas d'ailleurs, c'est que peut-être que quand tout un panel de politiques soi-disant qui défendent des idées différentes sont tous mûrs pour accepter cette idée ou commencer à l'insinuer. Moi, ça me paraît louche. C'est un peu comme cette histoire du pouvoir d'achat qu'on réclame de Mélenchon à Ranime Le Pen. Quand tout le monde est d'accord sur une certaine idée, c'est un peu louche. C'est ce qui se passe actuellement avec le revenu de base ou le revenu inconditionnel. S'il arrive dans le débat médiatique actuellement, c'est que la doxa économique ou le monde tel qu'il existe actuellement est prêt à le recevoir tel quel. C'est-à-dire que le capital peut s'en accommoder.
Alors tel quel, c'est-à-dire est-ce qu'on peut reprendre un peu tel quel? Moi, par exemple, j'ai entendu un revenu qui avoisinerait, alors je ne sais plus qui proposait ça, qui avoisinerait les 800 euros, mais peut-être qui ferait que l'on supprimerait toutes les autres aides sociales.
Voilà, c'est-à-dire que bon, il y a des propositions, oui, qui vont de 400 à 1000 euros, je ne sais pas exactement le détail de ces propositions. Le fait est que c'est l'histoire d'avoir deux chèques. C'est-à-dire que c'est, si tu veux plus, tu retournes sur le marché du travail, le marché de l'emploi plus précisément. C'est-à-dire que on ne sort pas de cette logique d'être employable, on ne sort pas de la logique de devoir finalement se vendre en tant que personne avec des diplômes, des compétences sur un marché où finalement on est toujours aussi vulnérable du bon vouloir des employeurs.
Et des aléas du marché,
de ce marché. Là où, alors très rapidement, parce qu'on pourrait en parler des heures, là où l'idée du réseau salarial et du salaire à vie, en fait, se passe du capital, puisque le projet n'est ni plus ni moins, en toute modestie, de sortir du capitalisme. Là où le revenu de base s'accommode du capitalisme, et le capitalisme s'accommode très bien du revenu de base, puisqu'on le voit, il est proposé par tous les tenants des réformateurs, etc., l'idée du salaire à vie est, si j'ose dire, diamétralement opposée à cette idée de revenu de base, puisqu'on n'a pas de chèque, c'est inconditionnel, c'est pas le même niveau de salaire. Et surtout et avant tout, c'est un peu le cœur du réseau salarial, la proposition centrale, c'est qu'on reconnaît aux personnes une qualité, une qualification. On est reconnu comme étant producteur de richesse. Alors, oui, c'est un peu...
Comment ça se passe? Est-ce que, du coup, une qualification, sachant que les qualifications des individus sont... d'une manière, je suppose, toutes différentes, est-ce qu'elles sont toutes considérées comme égales? Est-ce que ce salaire, du coup, est le même pour tous?
Il y a des discussions. Moi, je ne suis pas encore dans les instances de réseau salariat dans le CA, ni même dans les AG, puisque je suis à peine, je suis sympathisant, comme je disais tout à l'heure, donc je ne connais pas exactement. Mais ce que j'ai cru comprendre, c'est que tout ça était en débat, de manière assez vive, même au sein même de réseau salariat, pour savoir, est-ce qu'il y a plusieurs niveaux de qualification et donc plusieurs salaires. Après, c'est un, il me semble, un mouvement qui. qui est justement qui reçoit, comme le disait Pierre, toutes sortes de gens avec toutes sortes de passifs. Et du coup, ça brasse, ça discute, ça échange, ça débat au sein même. Il y a des propositions centrales, en fait, de reconnaître les gens comme étant plutôt des producteurs que des consommateurs. Ça serait un peu une base. Après, le détail est en discussion au sein de Réseau Salariat, et dans l'hypothèse d'une mise en place de choses concrètes, alors ce serait à mettre au débat public la manière dont on reconnaît une qualification, s'il y en a plusieurs niveaux, qui les décide, qui les évalue, etc. C'est pas du tout figé, en fait, tout ça.
Pierre, est-ce que tu peux nous...
Ça nous ramène au point de départ, hein. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que de l'éducation populaire, quoi. C'est pas quelque chose... C'est un grand mot qui fait un peu peur, quoi, qui dit pas ce qu'il est, à savoir que c'est pas du savoir qui vient d'en haut et qui est dispersé sur le peuple, c'est pas du tout ça, hein. C'est essentiellement de la coéducation, c'est-à-dire de la discussion où chacun apporte sa pierre, quoi. Et pour la qualification, c'est un bel exemple, hein. C'est Réseau Salariat est partagé là-dessus. Il y a deux tendances, 80% grosso modo favorables à une échelle de salaire de 1 à 4, fondée sur des niveaux de qualification.
Qui serait liée à quoi ? Aux études ?
En partie.
Donc, à l'expérience ?
En partie à la formation, à l'expérience aussi, et à tout autre critère que le peuple décidera. Ça, c'est le plus important. Réseau Salariat ne possède pas un modèle clé en main. Quand on propose quelque chose à Réseau Salariat, c'est juste une proposition. Et la proposition essentielle, c'est qu'on va donner pour la première fois, et ça, on ne dérogera jamais là-dessus, on donnera la décision finale au peuple, c'est-à-dire que là, la qualification, elle sera ce que le peuple en fera. Nous, on ne fait que proposer.
Mais... Alors, petite question liée au nombre, qui est souvent un facteur qui est souvent rappelé voilà, face à des expériences de démocratie. On dit régulièrement, oui, mais ça, c'est à une petite échelle. Bon, mais disons par rapport au nombre, pour décider de la qualification d'une personne qui est inconnue par la majorité de toutes les autres. Parce qu'en fait, j'imaginais par exemple un conseil restreint où les gens se connaissent et se disent bah, « je reconnais à un tel ses qualités précises là, qui me semblent être très importantes pour le bénéfice de tous ». Mais ça, c'est possible si les gens se connaissent entre eux, comment on fait, s'ils ne se connaissent pas, et est-ce qu'on n'est pas déjà un peu en train de débattre ?
Ah, je suppose que ce sera comme partout, quoi. C'est-à-dire qu'il y aura un dossier qui sera fait et la personne concernée qui le défendra. Voilà. Devant une commission, et la commission sera ce que le peuple en fera encore. Voilà, je ne sais pas, moi. Je ne sais pas. Il faudra mettre en place des instances dans lesquels ben c'est le peuple qui mettra en place des instances pour juger de la qualification. Voilà.
Et les 20% autres, du coup, sur quoi ils se prononcent ?
Ah, ben ils sont sur un salaire unique pour tout le monde, le même. Voilà, tout simplement.
Pourquoi appeler ça un salaire à vie et pas un revenu à vie ? Est-ce que sémantiquement... Ça change quelque chose ? Est-ce que ça a été choisi
Ah oui, ça a été choisi tout à fait intentionnellement. Alors le phénomène, le mot à vie, il se comprend tout seul, quoi. C'est-à-dire que cette somme d'argent sera donnée à partir de la majorité économico-politique, mettons 18 ans comme maintenant, hein, ça peut être autre chose, si on le décide. Et jusqu'à la mort, voilà, c'est ça, à vie. Et salaire, alors là, il y a un problème, en particulier avec les marxistes classiques, bien sûr, parce que selon Marx, il faut se débarrasser du salaire. Et c'est toujours vrai, hein, ce qu'il faut se débarrasser, c'est du salaire à l'intérieur de l'emploi, du salaire capitaliste. C'est pas pour ça qu'on ne peut pas être, pour une autre forme de salaire, un salaire non capitaliste, c'est celui que nous proposons, qui est fondé sur l'ensemble cotisation-salaire, c'est-à-dire la cotisation, c'est-à-dire prise de... Enfin, le fait que désormais, on conserve l'argent qu'on produit, qui tombe dans des caisses sous forme de cotisation, et ces cotisations-là, cette, ces caisses-là payant un salaire, mais un salaire non capitaliste, évidemment, puisque il est en dehors de, du système employeur-employé, du marché du travail, du crédit, de tous ces machins, enfin, toutes les instances capitalistes, quoi. Il est complètement en dehors de du capital à ce moment-là. D'ailleurs, à la limite, il n'y a plus de capital. Hein. Si on monte le taux de cotisation suffisamment pour qu'il soit égal à l'ensemble de la valeur ajoutée, il est évident qu'on empêche la formation du capital au niveau de la distribution primaire, et donc il n'y a plus de capital. Quoi. C'est la négation du capital, la disparition du capital. C'est pour ça que c'est fondamentalement anticapitalisme. Par contre, ça définit chacun d'entre nous, ça place chacun d'entre nous dans l'état d'être un producteur de valeur, quoi qu'il fasse. Et c'est pour ça qu'on le reconnaît en tant que producteur de valeur fondamental, un salaire. Et un salaire à vie, pour puisqu'on lui reconnaît que quoi qu'il fasse, toute sa vie, il est producteur de valeur. Voilà.
Il y a, pour compléter cette idée du salaire à vie qui pourrait paraître abstraite, en fait, on a déjà quelque chose d'équivalent qui existe de nos jours, et c'est d'ailleurs des institutions qui ont été créées donc justement après-guerre et qui nous donnent aujourd'hui en fait par exemple le statut du fonctionnaire. C'est quand même exactement ça. Il a un grade, on appelle ça, dans la fonction publique. Cette personne donc passe à un concours, à un grade est reçu, et en fait ce grade est irrévocable, en fait, à moins de faire vraiment des choses très très graves, je crois. Dans la fonction publique, on n'est pas viré, quoi. C'est-à-dire que la personne c'est elle qui est qualifiée, c'est pas son poste de travail. C'est-à-dire que dans le privé, c'est un poste qui est payé, c'est pas une personne, c'est le poste qui vaut 1200 euros ou 1800 euros, c'est le poste, c'est jamais la personne. Dans la fonction publique ou dans la proposition de salaire à vie, c'est bien la personne qui est qualifiée, on reconnaît cette personne comme étant productrice de valeur, et c'est irrévocable, c'est-à-dire que l'institut qui change d'école, il connaît pas le chômage, en fait, on doit lui fournir un autre poste et il garde son grade, il repart pas à zéro. Idem pour la fonction publique territoriale, etc. Et puis, y a la poursuite du salaire par la pension de retraite, qui est bien une poursuite du salaire, et non pas quelque chose qui serait de l'ordre de « j'ai cotisé, alors j'ai droit ». Ça n'a pas été pensé comme ça. Donc ce déjà-là révolutionnaire est peut-être un tremplin, en fait, pour imaginer une généralisation, en fin de compte, de la cotisation sociale pour aller vers cette idée du salaire à vie.
Excuse-moi, est-ce que tu peux reprendre sur la retraite n'a pas été pensée comme... parce que la retraite, du coup, elle est moindre, enfin elle est calculée sur la base de ce que tu as cotisé, et la base de ce que tu as cotisé était liée à l'ampleur de ton salaire, quoi. Et donc
elle est pas liée à l'ensemble, non. C'est la fausse analyse par le catéchisme capitaliste que vous venez de dire là, mais
c'est ce qu'on observe aussi, j'imagine. Enfin, je suis pas à la retraite, et en tout cas, souvent les retraités constatent qu'ils ont moins une fois retraités que ce qu'ils avaient, et que ce moins-là se calcule un peu quand même relativement à ce qu'ils avaient quand ils étaient en activité, quoi.
Oui, alors tant qu'il y a eu des luttes. Tant que les travailleurs ont cru en leur force, ils ont fait monter le taux de cotisation sociale et ils ont fait monter le taux de remplacement, ce qu'on appelle le taux de remplacement, c'est-à-dire la proportion entre la retraite et le dernier salaire. On était en train de monter vers 100% du salaire net quand nos amis socialistes ont arrêté cette progression. On était en train d'aller vers ça. Ensuite, on a introduit des conditions de, comment on appelle ça, de carrière. C'est ça, je sais pas combien de trimestres, des machins, voilà. On a étendu aux 10 dernières années, je crois, de... Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a, on a commencé à piquer tout ça. Mais normalement, la retraite, quand on sera en salaire à vie, ce sera la continuation pure et simple du dernier salaire. Point. C'est tout. Non, ce ne sera même pas ça. Parce qu'il n'y aura pas de retraite. On sera, à partir de 18 ans, on sera dans un salaire à vie jusqu'à la mort. Et rien n'empêchera à un mec de 75 ou 85 ans de présenter un nouveau dossier de qualification, y compris dans un métier qui n'est pas du tout le sien, et qui pourrait lui permettre de monter de qualification encore, donc d'augmenter encore à 85 ans son salaire. C'est ça le salaire à vie. Hein. On voit bien que là, c'est complètement différent de l'espèce de charabia qu'on nous propose. Hein.
Tout à l'heure, hors micro, toi, Pierre, qui revenais sur la difficulté de penser différemment.
Ben, en fait, c'est en effet difficile d'expliquer tout ça en très peu de temps, et il est question qu'on propose une émission régulière pour développer les thématiques du réseau salariat. Mais c'est vrai que ça prend du temps de démonter, parce qu'on a appris à penser avec les mots et avec le raisonnement des réformateurs. C'est-à-dire que combien de personnes, en fin de compte, croient vraiment que bah oui, on vit plus longtemps, donc bah faut travailler plus longtemps, travailler au sens du marché de l'emploi et de l'emploi, etc. Combien de gens pensent que réellement bah c'est de la solidarité intergénérationnelle? On nous a appris à penser avec les mots de nos adversaires, c'est-à-dire que bah la cotisation chômage bah, c'est de la solidarité avec les gens privés d'emploi, que la cotisation retraite, bah, c'est la solidarité des actifs envers les retraités, que, etc., etc. Et tout ça, c'est tellement matraqué, pour moi qui suis né en 80, je veux dire, ils avaient attaqué le travail, les réformateurs, donc on a appris quand même à coup de matraquage médiatique et de pensée unique, hein, disons-le, et ben à penser avec les mots de nos adversaires, et même à s'imprégner, à penser que, bah oui, en fait... c'est normal de comment dire d'avoir une retraite en fonction de ce qu'on a cotisé. Ben non, comme le rappelait Pierre, la direction, le chemin qu'avait pris les conquêtes sociales tout au cours du XXe siècle, parce que ça commence avant 45, hein, avant le CNR, la direction, c'était pas celle-ci du tout, et on nous fait croire, et on y arrive très très bien malheureusement, que c'est j'ai cotisé, j'ai droit, je suis solidaire. Alors il y a cette notion de solidarité qui hérisse les poils de Bernard Friot. Parce que bah, on est dans une sorte de bien-pensance et de, comment on appelle ça,
je sais pas, d'œcuménisme.
Oui, voilà, j'allais dire de catéchisme, en fait, qu'il faut démonter à tout prix, dans les esprits, il me semble.
Oui. Il y aurait un truc à ajouter, c'est quand même, c'est que ce secteur non-marchand gère 30% du PIB, quand même.
Quel secteur non-marchand, pardon ?
Eh bien, l'ensemble...
des cotisations.
Tout ce qui concerne la protection sociale, l'éducation nationale, par exemple, enfin, tout le régime des fonctionnaires, tout ce machin-là, c'est le secteur non-marchand. Hein.
La Sécu.
La Sécu, et puis c'est le secteur des fonctionnaires et tout ça. Hein. Ça gère 30% du PIB quand même, hein. Depuis 70 ans. Et au bonheur de chacun. Les jours heureux, c'est pas rien du tout. Hein. C'est une réalité. Avant ça... l'espérance de vie était de 45 ans. Hein. Quand Ambroise Croizat a doublé le taux de cotisation sociale et a instauré le statut des fonctionnaires et la sécurité sociale, en un peu plus de 10 ans, il est passé à 70 ans quand même, l'espérance de vie. Hein. Attention. Donc les jours heureux, c'est pas rien. C'est une réalité extrêmement concrète. La gestion de la sécurité sociale par les travailleurs non plus, hein. L'argent de la sécurité sociale, ce qui tombe dans les caisses, les cotisations qui tombent dans les caisses, de 46 à 67, je crois, elle a été gérée par les travailleurs. Hein. N'oublions pas, avant que le grand personnage de De Gaulle n'y mettent fin.
Dans mon souvenir, c'était de droite, hein. Quelque chose d'un peu proportionnel. Quoi. Il y avait 75% géré par les ouvriers et 20%, 25% géré par les
patrons. Voilà, c'est ça. Il y avait 15% pour les patrons, 15, oui. Deux postes, je crois, pour les médecins ou un truc comme ça, et 75% pour les travailleurs, ce qui fait que les travailleurs avaient forcément toujours la majorité. Et en fait, c'était la CGT qui avait la majorité. Voilà, c'est ça. C'est ce qui énervait tout le monde. Hein.
Mmh. Bah, d'ailleurs,
sociaux-démocrates compris. Hein. Dès ce moment-là, la sécurité sociale a été attaquée, certes par la droite, mais par la gauche réformiste dès sa formation. Ils n'étaient pas du tout pour une gestion populaire. Ils ne le sont toujours pas, d'ailleurs. Ils le démontrent tous les jours, puisque hein, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de démolir le système. Mmh. Voilà.
Je me demandais... Les luttes ouvrières qui ont effectivement débuté avant 1945, elles prenaient place dans un monde où le secteur secondaire était le secteur principal, donc l'industrie. C'est peut-être toujours principal dans le monde à l'échelle internationale, ça je ne saurais pas trop dire, mais en France, en tout cas, ça, la part de l'industrie et du coup le nombre d'ouvriers a largement diminué, et avec eux certainement aussi qu'on a perdu un peu d'une culture de lutte, une culture politique, enfin il y a un truc comme ça. Mais du coup, comment imaginer ce... Oh là là. Ça y est, je suis en plein débat du réseau salariat, donc excusez-moi, chers auditeurs, ça mérite des silences. Et,
non, mais moi, je voyais le début de la question, donc je
veux bien.
Je pense que je peux répondre, même si la question n'est pas finie. Ouais.
Pas du tout formulée.
Effectivement, y a un gros changement dans le monde du travail, effectivement, il y a énormément de changements dans le monde du travail. Effectivement, le secteur secondaire, celui de l'industrie, a beaucoup diminué. Les secteurs tertiaires, quaternaires, etc. se sont développés.
C'est pas ce qui... secteur quaternaire ?
Oh ben c'est le truc des services, de l'informatique, des machins comme ça, des trucs... voilà, bon. Mais peu importe, ce qui n'est pas le secteur secondaire ou le secteur primaire de l'agriculture et puis des matières premières, etc. A diminué beaucoup, et c'est les autres secteurs qui se sont développés. Mais ça change. Est-ce que ça change grand-chose pour le monde du travail? Ça ne devrait pas changer grand-chose. Ce qui a changé grand-chose, c'est la propagande qui est faite là-dessus et l'idéologie. Hein, attention, on nous a fait croire qu'il n'y a plus de classe. Et c'est, oui. Alors, le problème, c'est que le peuple le croit. Par contre, les riches, le capital, c'est très bien où il en est. Hein. Il y en a un des riches qui a dit il n'y a pas longtemps « Je sais ce que c'est le marxisme, je connais ce que c'est la lutte de classe et je suis en train de la gagner. »
Nous l'avons gagnée, oui.
Voilà.
Qui a dit ça ?
Alors là, il ne faut pas l'oublier, parce que ça vient d'être dit il y a quelques années par un très grand patron. Nous avons oublié que nous avions une conscience de classe, et tant pis pour nous. Mais rien ne nous empêche de nouveau. Moi, je me sens... C'est pas pour moi, je me bats, hein, j'ai 62 ans, là, et puis j'ai une retraite à peu près, je pourrais dire que je m'en fous, mais c'est pas du tout le cas. Je me sens du peuple, et quand je me bats, c'est pour moi que je me bats. Voilà. À chacun d'un fer autant, on peut tous le faire.
Après, dans ta question non formulée, j'avais aussi l'impression d'entendre comment on repart à l'offensive, parce que je crois que l'enjeu, il est un peu là quand même, c'est que aujourd'hui, le mouvement syndical, on va dire, n'est que dans la défense, quoi. N'est que dans le... On va essayer de garder ça, on défend ce qu'on a... comment ils appellent ça ? Nos acquis. Alors, il y a eu des conquêtes, ce qui peut différer un peu dans les mots. Et on est vachement sur une défensive. Ah, on va garder la retraite à 62 ans. Bon, d'accord, 62 ans et demi, etc. Et dans tous les domaines, c'est plutôt... on essaie de s'agripper à des trucs. Là où, en fait, il y avait pendant presque un siècle, comme ça, ce mouvement qui allait de l'avant et qui a été brisé net. et qui peine à trouver un second souffle. Et en effet, là maintenant, on est plutôt sur la défensive que sur l'attaque. C'est un peu aussi une des thématiques, je pense, du réseau salarial, c'est comment on reparle. Alors, j'ai malheureusement pas toutes les réponses, hein, mais c'est histoire de repasser à l'offensive, plus être sur la défensive. C'est plus on revendique de garder ça. Non, on veut aller plus loin. Il faut reprendre le combat là où il a été abandonné fin des années 70, début des années 80. C'est-à-dire, pourquoi pas aujourd'hui faire une proposition de retraite à 55 ans à taux plein à 100% du meilleur salaire. Point.
Oui, tout à fait.
Ouais, ça peut paraître bizarre, mais en même temps, comme le dit Friot, c'est en faisant des propositions qui peuvent paraître comme ça vraiment ahurissantes aujourd'hui, on est obligé de faire de la politique et d'expliquer l'histoire de ce combat, et on est obligé de se réapproprier cette histoire qui nous a quand même été un peu volée, il faut bien le dire.
Oui. Deux propositions qui sont dans le positif et susceptibles de redonner envie de reprendre le combat au peuple, c'est de monter dès demain matin de 30% l'ensemble salaire cotisation sociale, première mesure, et deuxième mesure, refuser de laisser la gestion de ce fric au patron, c'est-à-dire reprendre la gestion de la sécurité sociale par nous, uniquement. C'est notre fric, hein. C'est nous qui l'avons produit. Alors, déjà qu'ils nous le piquent, c'est déjà beaucoup, mais qu'ils s'amusent ensuite à le gérer pour nous en donner des miettes, ça fait beaucoup. Et, ça fait vraiment beaucoup.
Hors micro, tout à l'heure, Pierre, tu commençais à faire un schéma qui m'a un peu perdu, mais peut-être on peut revenir dessus.
C'était pour rigoler.
C'était pour rigoler. De 3 minutes, c'était donc non pas un camembert, mais une sorte de... Bon, voilà, une
barre. Un bâton.
Un bâton.
Voilà. Celui que je prendrai pour...
Un bâton. Dans ce bâton, il y avait une part de... Ce bâton, ça représentait le PIB. Il y
ça
avait
représentait le PIB, ouais.
Les salaires, ouais. Les cotisations,
oui.
Et le capital, c'est-à-dire tout le reste de l'argent... Du oui. PIB qui n'est ni salaire ni cotisation.
Voilà, c'est ça.
Du coup, l'idée du salaire à vie, oui. En fait, ce serait de transformer ce reste-là, donc le capital.
Monter les salaires, tu vois. Monter les salaires, monter les cotisations sociales, ce qui fait que ça peut être pris effectivement que sur le capital. Et si on monte suffisamment, eh bien, il n'y a plus de capital.
Et donc ces salaires-là...
C'est au niveau de la distribution primaire, donc c'est ce qu'on appelle la distribution primaire. C'est une notion assez, assez importante. Hein, que
Pour ça, il faut qu'il y ait quand même des gens qui aient envie de produire de la richesse. Moi, je peux avoir des activités que j'apprécie, qui produisent des trucs, mais...
Alors la richesse, peut-être... qu'est-ce que c'est ? Et la valeur, qu'est-ce que c'est ? C'est évidemment la question centrale. Enfin, une des questions centrales. La production de valeur économique. Alors l'exemple qu'on donne toujours, un des exemples qu'on donne toujours au réseau salariat, c'est qu'est, il faut bien se rendre compte que la définition de la valeur, elle est dans un temps et dans un espace. Elle n'est pas absolue, jamais. C'est-à-dire que on voit dans un film qui présente le réseau salariat, un gars qui tond la pelouse chez lui. Bon, il ne travaille pas, parce que chez lui, samedi après-midi, il tond sa pelouse. Un employé de la collectivité territoriale tond la pelouse. Alors lui, il travaille, mais bon, il dépense de l'argent, parce que ça coûte à la société de l'employé, parce que c'est de l'argent public, donc ça coûte de l'argent. Et puis le mec de Veolia qui tond la pelouse, alors lui, il produit de la richesse. Donc c'est exactement la même activité. Et on a trois visions différentes dans ce monde-ci actuel de cette activité qui serait traitée pas de la même manière. Donc évidemment que l'enjeu est de savoir ce que c'est que le travail, ce que c'est que la valeur économique, qui en produit, comment. Et ça, c'est aussi des discussions. Il n'y a pas non plus là de dogme, a priori, mais certainement à réviser, à réviser un certain nombre de choses. Pourquoi est-ce que le retraité qui se fait un café, qui emmène ses enfants à l'école, ne travaille pas ? Et pourquoi une assistante maternelle qui emmène les mêmes enfants à l'école, elle travaille ? Ça n'a pas franchement de sens.
C'est alors, ça fait appel à deux mots bien particulier. C'est travail concret, travail abstrait. Le travail concret, c'est l'activité qu'on fait. C'est donc, par exemple, tondre la pelouse. C'est le même dans les trois cas qui viennent d'être donnés. Et le travail abstrait, c'est dans la vision capitaliste, c'est ce qui augmente le capital. Donc, il y a production de valeur économique parmi les trois cas qui ont été donnés, que lorsque c'est un employé de Veolia qui tend la pelouse. Quand c'est l'employé municipal, on nous fait croire qu'il dépense, et quand c'est le retraité la personne qui tend la pelouse le dimanche matin, on nous fait croire qu'il ne travaille pas. Voilà. Mais c'est uniquement une convention sociale, et c'est plus qu'une convention sociale, c'est une convention politique, donc qui a été faite par l'humain avec des idées, avec une idéologie derrière extrêmement marquée, et donc ça peut être détruit, et ça peut être refaçonné complètement différemment. Nous, on propose que dans les trois cas, dans le cadre d'un salaire à vie, dans les trois cas, les gens travaillent, et les gens produisent dans les trois cas de la valeur économique. C'est pour ça qu'il y a un salaire pour les trois, que ce soit la personne qui tombe le matin, que ce soit l'employé municipal ou que ce soit l'employé d'une entreprise quelconque, il y a production de valeur et donc il y a salaire associé. On en revient à une explication antérieure.
Du coup, là, vous avez quand même un peu répondu à une question que j'avais autour d'un petit paragraphe qui est présent sur le site du Réseau Salaria, qui disait que donc Réseau Salaria s'inspire de l'expérience massive et de long terme d'un déjà-là révolutionnaire. En effet, des pratiques collectives de travail et de production alternatives au système capitaliste sont pratiquées au quotidien par les fonctionnaires, parents, retraités, chômeurs, chômeuses, etc. Des pratiques qui sont systématiquement soit passées sous silence, soit dévalorisées par l'idéologie capitaliste. Du coup, je vois dans les exemples que vous m'avez donné quelques biais. Est-ce que vous en avez d'autres? Surtout pour ce qui est des pratiques collectives de travail et de production alternatives. Le fait qu'on puisse amener des enfants à l'école sans être pour autant assistant ou assistante maternelle, ou qu'on tonde la pelouse, est-ce que c'est une pratique alternative au système capitaliste? Est-ce que tout ce qui est gratuit en ce bas monde est encore une alternative au système capitaliste? Vous me terrifiez. Hein.
Bah, ça dépend de la manière qu'on a de voir les choses, j'ai l'impression. C'est-à-dire que actuellement, la santé, c'est une dépense, quoi. C'est-à-dire qu'on nous dit... Alors il y a l'histoire de la T2A, la tarification à l'activité dans le cadre de... Voilà. Il faudrait que l'hôpital soit rentable. Il faudrait que... Alors, que l'éducation soit rentable bientôt, je veux dire. On est dans une logique où on voudrait faire rentrer, mais exactement comme ton introduction, on recolle avec le début, hein, Fillon et la privatisation, on voudrait faire rentrer tous les secteurs d'activité, et avec la GCS, etc., tous les secteurs d'activité, quels qu'ils soient, dans le monde marchand. Donc de réaffirmer qu'en fait, on produit de la santé de manière non capitaliste, c'est une manière de voir les choses et de dire qu'on dépense de l'argent public pour soigner les malades et qu'on jette l'argent par les fenêtres, c'en est une autre. Mmh. On peut dire, oui, qu'en France, avec le régime de sécurité sociale, une santé à peu près encore gratuite pour tous, on produit de manière non capitaliste de la santé. C'est une manière de voir les choses,
oui,
je crois.
C'est plus qu'une manière de voir les choses, c'est une réalité. Hein. Oui. Elle est dans les comptes d'inondation. Toute la production non marchande, elle ne se retranche pas comme on veut nous le faire croire du PIB, mais elle s'y ajoute. C'est très clairement, elle est comptée comme de la production. Et ça vient pas d'un délire de je ne sais qui. Hein. C'est l'Organisation des Nations Unies quand elle a voulu essayer de comparer les différents types économiques, les différents niveaux de développement à l'échelon mondial. Elle s'est trouvée devant une impossibilité. Lorsqu'il y avait des systèmes socialisés, par exemple à Cuba, elle n'arrivait pas à comparer avec un système capitaliste. Et il lui a bien fallu qu'elle reconnaisse à ce moment-là que, par exemple, le secteur producteur de santé, le secteur producteur d'éducation étaient aussi des producteurs de valeurs économiques. Et à ce moment-là, elle a tout simplement proposé de l'ajouter au PIB.
Donc, il faut bien se rendre compte que...
C'est une réalité, c'est normal.
Que le PIB, qui est donc la somme des valeurs ajoutées, donc l'entreprise X ou Y produit tant de valeurs ajoutées, donc ça on le comptabilise, mais comment on comptabilise les infirmières et les professeurs? On met leur salaire, on additionne leur salaire, c'est ça. On reconnaît qu'ils produisent cette richesse-là. Donc ils produisent eux-mêmes leur salaire, en fait. Ouais. On n'a pas du tout ça en tête, en fait. C'est ça qui est étrange et qui est... Donc, pour répondre à ta question du déjà-là révolutionnaire, ben oui, ça existe déjà. Et c'est sans doute pour ça que les réformateurs l'attaquent, non pas pour grappiller quelques points par-ci par-là, mais c'est que ce qui est déjà en place, c'est ce que disait Pierre tout à l'heure, c'est qu'il y a un tiers de la valeur ajoutée dans notre pays qui est extrait, qui échappe aux mains des prédateurs capitalistes, qui échappe, aux actionnaires, etc. C'est insupportable pour eux. Oui. Donc, ce déjà-là révolutionnaire, ce fameux terme, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Oui, c'est
certainement
en place.
Que de leur point de vue, ça n'est pas de la véritable richesse.
Alors, voilà, mais les dépenses de santé, par exemple, ce n'est qu'une dépense. La santé, ce n'est qu'une dépense dans le délire capitaliste. Mais c'est bien du délire. Ça ne correspond pas à une réalité. Le mot délire n'est pas exagéré, hein. c'est pas un écart de langage, c'est très net, tout simplement, c'est un véritable délire, parce que la réalité n'est pas celle-là. Autre exemple, tout le travail domestique, qui est généralement le travail des femmes, il a été chiffré à peu près, il y a des gens qui ont essayé de le chiffrer, il représente pour nous 600 milliards d'euros, c'est-à-dire grosso modo le tiers du PIB, quoi, hein, c'est ça ? Un peu plus, à peu près le tiers du PIB. Il n'est pas comptabilisé du tout. Il suffirait que demain, qu'on reconnaisse cette réalité, parce que s'il n'y avait pas ce travail, en particulier ce travail des femmes, la société n'existerait pas, tout simplement. Donc on ne serait pas là pour en parler. Il suffirait que demain, on reconnaisse la réalité des choses, la réalité concrète des choses, encore une fois, parce que si ce travail n'existait pas, rien n'existerait. Donc il faudrait absolument le reconnaître. Si on le reconnaît, le PIB qui est actuellement, notre PIB qui est de 2200 milliards à peu près, passerait à 2800 milliards du jour au lendemain. Demain matin, ça peut être vrai si on le fait.
Mais alors, comprenez ? Qu'est-ce qu'on gagne à tout comptabiliser comme ça ? Qu'est-ce qu'on gagnerait à tripler, ou j'ai pas tenu le compte de notre PIB ?
On gagnerait... Déjà, à ce que ceux qui travaillent soient reconnus. Celles qui travaillent soient reconnues. C'est déjà pas mal, peut-être. Comme on gagne à ce que les médecins soient reconnus, que le secteur de santé soit reconnu. Quand on a besoin d'un scanner, quand même, quand il y a quelqu'un pour le faire, c'est déjà pas mal. Mais quand on a besoin d'un café ou d'une omelette à la maison, c'est pas mal aussi qu'il y soit.
Moi, ça me...
Ah ben, je
ça
sais,
pourrait oui. me faire craindre de comptabiliser tout... les moindres actions de ma vie.
Alors, ça c'est une discussion, mais peut-être qu'il faut peut-être pas l'engager parce que elle est tellement complexe.
C'est vrai. Et puis la fin de notre émission.
Elle est vraiment extrêmement complexe. Celle-là, on peut en dire. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? On peut en dire qu'on pourrait. Il faudrait peut-être aller effectivement vers en sortir de la valeur. Pour en sortir définitivement de la valeur et revenir effectivement sur le travail concret et sur les valeurs d'usage, uniquement sur les valeurs d'usage. C'est une tendance qui est expérimentée surtout par les jeunes, donc ceux qui sortent complètement du système, et non pas que par les jeunes, à l'échelon mondial, tout ce qui se passe en Amérique latine, au niveau de Chiapas et tout ça. Ça file dans ce sens-là et ça pose des vraies questions. Mais attention, c'est vraiment... Attention, là, on est au bout du bout. Hein.
On est arrivé beaucoup trop vite pour moi au bout du bout, je pense. et du coup, justement, comme vous avez mentionné Bernard Friot, oui, c'est ça, Bernard Friot, donc économiste et sociologue, en disant que le réseau salariat a beaucoup à voir avec la pensée de cet homme. Est-ce que vous auriez deux, trois titres d'ouvrages à nous indiquer ?
Ah oui, je suis venu même avec ça. Je vais dire ce que j'ai. Voilà, parce que je pense que c'est important.
Alors, je crois qu'il a émancipé le travail.
Voilà. Alors, d'abord, il y a un truc à dire, c'est que tu vas faire venir Bernard Friot, tu es en train de le faire.
Ah oui.
En fin d'hiver ou au printemps, Bernard Friot sera probablement sur le plateau, à ton initiative. Hein. Voilà.
Oui,
ça va se faire. Il a donné son accord, donc maintenant, il n'y a plus qu'à le mettre concrètement en branle, ce machin-là. Ça va se faire et ça va être, je pense, super. Voilà. Du point de vue de publication de Bernard Friot, pour moi, la plus accessible, c'est celle qui est sous forme d'entretien avec un autre membre de Réseau Salariat, Patrick Zeck, qui est un Belge. Et ça s'appelle Émanciper le travail, c'est aux éditions La Dispute. Et alors, sur Internet, ce qu'on trouve, à mon avis, de plus parlant, pour un abord, c'est quelque chose qui a été fait par Usul. Alors, il faut taper Usul, YouTube, vidéo, et le salaire à vie. Et là, on tombe sur un travail de journaliste qui a été fait par Usul.
C'est un film.
Qui est génial. Vraiment complètement génial. Ils ont fait un boulot magnifique. Voilà. Alors, Réseau Salariat, je peux vous donner le site, peut-être le site des conférences gesticulées. Il faut aller directement sur les conférences gesticulées. Et là, on trouve en particulier la dernière de Bernard Friot qui s'appelle « À quoi je dis oui ». Pour moi, elle est formidable parce qu'elle elle nous incite, elle nous donne envie de reprendre notre rôle de classe moteur de l'histoire, tout simplement. C'est-à-dire changer le monde et sa presse. Voilà. Je pense qu'il faudrait aller voir André Gorce, Misère du présent, richesse du possible. Et le film qui a été fait sur lui, qui s'appelle Il s'agit de quitter la Terre. C'est un documentaire autour de la pensée d'André Gorce. Et il y a autre chose, il faudrait aller voir le site de la nouvelle organisation d'éducation populaire qui a été mise en place par Bernard Friot et Franck Lepage. J'ai oublié son nom, on doit la trouver, voilà.
Et sur le site du Réseau Salariat, moult vidéos, textes, voilà. Publications, il y a un truc en cours qui s'appelle le salaire à vie pour les nuls, qui essaye de résumer, comme son nom l'indique, salaire à vie pour les nuls, en se basant sur les bouquins là, qui existent de ce truc-là. Beaucoup de textes, beaucoup de propositions, de réflexions.
Voilà, dernière...
Le site, excusez-moi, juste le site, c'est www.réseau-salariat avec un t.info.
Voilà, merci, que je n'avais pas su le dire aussi bien.
Frédéric Perrin a créé aussi une adhérente des Réseaux Salariat a créé un groupe non mixte. C'est pas complètement nouveau, à part que c'est complètement oublié depuis 40 ans ou 50 ans, hein. Et que ça vient de se recréer à Réseau Salariat, c'est très important parce que ça se place sur justement le travail domestique, le travail des femmes, ça part de là. Et à partir des idées de Réseau Salariat, voir comment les femmes subissent une double exploitation. Voilà. Dernier truc, la prochaine réunion de Réseau Salariat Limousin aura lieu à Uzerche le vendredi 13 janvier à 18h30. Je crois que c'est la Petite Fabrique, c'est un café associatif dans le vieux Uzerche. Voilà.
Le 13 janvier à 18h30.
Uzerche.
À Uzerche, la Petite Fabrique, du coup, pour rencontrer tous les membres du Réseau Salariat Limousin.
Voilà, oui, et tous ceux qui ont envie de faire connaissance. Voilà.
Est-ce que vous avez rapidement une chose à ajouter ou...
Oui, il y en aurait tellement qu'alors franchement, Ah si. Ben, les futures universités, la deuxième université d'été de Réseau Salariat se tiendra en Corrèze, dans ma commune, à Saint-Martin-la-Méanne, de les 12, 13, 14, 15 août prochains. Voilà. Tout près d'ici. Une heure et quart, une heure et demie de bagnole d'ici. Puis voilà. On est à Saint-Martin-la-Méanne, dans une ambiance conviviale et communale. Voilà.
Merci beaucoup. Et à très bientôt.
Merci de l'invitation. Enfin, on s'est invité nous-mêmes, mais
c'était très bien. Réinvitez-vous quand vous voulez pour animer des émissions sur Radio Vassivière avec grand plaisir.
Merci. Bonsoir à tous.
Et bonsoir.